Alors c'est toujours une joie que de parler, de découvrir quelque chose dans la parole de Dieu, et j'espère qu'aujourd'hui, ce sera aussi pour vous une source de renouvellement, une source de découverte et une source d'encouragement. Dans l'Ancien Testament, on peut lire dans Proverbes au chapitre 9, le premier verset de ce chapitre, nous dit « La sagesse a taillé sept piliers et elle a construit sa maison. » Alors, ayant vu ce verset, je me suis dit « il faudrait que je les cherche, mais je ne les ai pas vraiment trouvés dans l'Ancien Testament. Ils sont répartis d'une manière un peu... ça ne saute pas à nos yeux à la lecture des proverbes, mais ils sont répartis dans le livre des proverbes. » Alors, le Nouveau Testament, quant à lui, nous propose au moins deux lignes de conduite qui nous présentent aussi sept qualités de la sagesse. La première que je mentionne est assez abstraite, on ne va pas s'attarder là-dessus. Elle est un peu philosophique, mais elle est quand même très intéressante. Elle apparaît dans Jacques au chapitre 3 et au verset 17, et je vous la lis. Ce n'est pas celle-là sur laquelle on va s'attarder, mais c'est intéressant de la connaître. Il est dit là, la sagesse qui vient d'en haut est en premier pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti et sans hypocrisie. Voilà un beau programme, un peu abstrait comme je dis, qui demanderait à être concrétisé. Et c'est pour cela que je vous propose de nous attarder sur une autre ligne de conduite, plus concrète, très pratique, présentée par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et je vous propose de lire ensemble les versets 16 à 22, qui sont vraiment un encouragement. Et on trouve aussi ce qu'on pourrait appeler... les sept piliers de la sagesse chrétienne. Je crois que c'est moi qui ai inventé ce titre. Voilà. Alors, lisons. Au verset 16, puis ensuite on réfléchira sur ces versets. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Alors voilà un programme on ne peut plus pratique. Alors on tâchera d'être un petit peu interactif de temps en temps et je ferai appel à votre spontanéité en nous posant des questions auxquelles vous pourrez tenter de répondre de temps en temps. Ça commence par la joie. Est-ce que nous sommes heureux ce matin? La joie peut être l'expérience constante du chrétien, même dans des circonstances adverses, dans les plus favorables, dans les plus défavorables aussi, surtout. Parce que Christ est la source et l'objet de ma joie. Les jeunes et les moins jeunes connaissent ce chant qui dit « Christ est ma joie ». Hein, on l'a chanté déjà de temps en temps. Et on sait que les circonstances aussi sont soumises à Jésus-Christ. Cette joie crée en fait en nous un état d'esprit de louange, un peu comme ce matin. Encore qu'on est des fois un peu timide dans notre état de louange. Mais la joie... crée en nous un état d'esprit rempli de louanges. Alors je vous pose une première question. Qu'est-ce tout simple, répondez tout simplement, qu'est-ce qui crée en nous de la joie aujourd'hui? Alors, j'attends vos réponses. Qu'est-ce qui vous a réjoui ce matin?
Que Dieu est vivant.
Voilà, Dieu est vivant.
Dieu
m'aime. Il est... Voilà, il m'aime, Dieu est vivant, il m'aime. Évélie disait
« Tel que je suis ».
Ben oui, on l'a chanté aussi. Voilà trois raisons. D'autres encore. N'hésitez pas.
Merci pour le cadeau de la vie aujourd'hui.
Voilà. Le cadeau de la vie aujourd'hui.
Eh oui.
C'est important.
Eh oui.
De venir à l'église.
Encore une fois ?
De venir à l'église.
Oui, eh bien, bon oui, c'est, elle s'est réjouie de venir à l'église.
Dès que nous sommes sauvés, nous marchons par la foi et non par la vue, par l'onction de son esprit. Et là, on a la joie.
Voilà, la joie d'être sauvé, de marcher par la foi et non par la vue. Voilà des sujets de joie. Et Paul, ailleurs, nous montre comment il se réjouissait même malgré les circonstances adverses. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 8, et ensuite au verset 10, Paul décrit sa situation et dit « Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. » Et un peu plus au verset 10, « Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons beaucoup, même si ces beaucoup n'ont des fois pas l'impression d'être enrichis. N'ayant rien, car nous possédons tout. » Et je suis certain aujourd'hui que quelques-uns d'entre nous considèrent qu'ils passent par des circonstances défavorables. Alors si c'est possible, j'aimerais vous laisser des encouragements. Dans Philippiens 4, et au verset 4, on lit « Réjouissez-vous. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Cet encouragement, c'est l'encouragement de quelqu'un qui était en prison entre des soldats et qui rédigeait sa lettre depuis la prison. Et voilà le message qu'il laisse aux Philippiens. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Qu'est-ce que le Seigneur est pour nous aujourd'hui? On l'a déjà un peu évoqué, mais je nous pose la question. Alors, le Seigneur est pour nous quoi?
Quelqu'un a dit, je cherche, j'ai ce que vous cherchez.
Le Seigneur est notre guide et le Seigneur a ce que nous cherchons. Donc si nous nous plaçons à la recherche, eh bien le Seigneur veut... nous aider à trouver ce qui nous sera nécessaire. Qu'est encore le Seigneur ?
Le Seigneur nous attend.
Alors, le Seigneur nous attend. Et c'est vrai qu'un jour, nous avons rendez-vous avec le Seigneur, que ce soit ici-bas, lorsqu'il reviendra, ou alors dans sa présence au ciel. Le Seigneur nous attend. Dans Romains 12 et au verset 12, l'apôtre dit « L'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, qu'elle soutienne votre endurance. » Notre joie est donc intimement liée à notre prière, à notre persévérance, à ce que nous espérons. Soit dit en passant, soyez toujours joyeux, en grec, c'est le verset le plus court de la Bible, même si en français, le verset le plus court, c'est Jésus pleura, et ça change de répertoire dans l'histoire de Lazare, qu'il a ressuscité des morts. Je passe au verset suivant, qui a déjà été évoqué dans ce qu'on vient de dire, priez. Sans cesse. Prier sans cesse. La prière, ça devrait être l'attitude constante du chrétien, non pas tellement dans le sens d'abandonner ses devoirs pour s'abandonner entièrement à la prière, pour s'adonner entièrement à la prière. Un chrétien prie à certains moments qui sont mis à part pour ça, mais il prie aussi spontanément, selon les besoins qui se présentent, et il jouit ainsi de la communion, d'une communion réelle avec le Seigneur, par la prière. Ailleurs que dans ce texte, Éphésiens 6 et au verset 10 nous encourage et nous dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance. Faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » Ça, c'est un vaste programme. Pas pour quelques-uns, mais pour tous ceux. Donc, on est loin d'avoir achevé ce programme. Mais le Seigneur nous encourage dans ce programme à le poursuivre. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit au chapitre 4 et au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. » Et je nous pose une question que je dois me poser souvent. Qu'est-ce qui nous distrait au moment de la prière, quand nous décidons de prier? Qu'est-ce qui nous distrait? C'est aussi une question à laquelle vous avez des réponses. Le bruit des avions nous distrait. Mais encore... Oui, la liste de choses à faire. À faire. Autre chose ? Nos préoccupations, effectivement. Hein, les avions, la liste de choses à faire, nos préoccupations. Et il y aurait, bien sûr, plein d'autres choses. Et ça nous distrait. Le sport peut nous distraire. Le sport que nous avons vu ou que nous allons voir, le sport que nous avons fait ou que nous allons faire. Effectivement, que de sujets de distraction. Et l'ennemi, notre ennemi, notre adversaire, cherche à nous distraire de tant et tant de manières. On est des fois distrait aussi par les séries qu'on voit, par toutes ces préoccupations, effectivement, qui remplissent aussi notre cœur. Et puis après la prière, l'apôtre fait part de ce qui concerne la reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dire merci à Dieu devrait être une attitude inné chez le chrétien. Et puis, dire merci aux autres aussi. Alors, une question qu'on peut se poser et que je vous pose, quelles sont nos raisons de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu ? Pour toute chose. Mais c'est quoi toute chose ? Ça, c'est un résumé succinct qui est très bon, mais alors, pratiquement, toute chose ? La vie. Tout ce que nous révèle sa parole de Dieu, la manière dont il nous exauce, pardon. La nature, les enfants, bien sûr, nous devons rendre grâce pour les enfants, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, le temps plus vieux. On peut le remercier pour la Bible qu'il nous donne. On peut le remercier pour le soleil, quand il y a du soleil, effectivement. La paix. Pardon ? L'amour que Dieu nous donne. On peut le remercier pour toutes sortes de choses, pour nos frères et sœurs, pour la santé, pour le travail que le Seigneur nous donne. Pour nos amis, pour ceux qui viennent à notre aide quand nous passons par des difficultés. Il y a un verset dans Romains 8 et au verset 28 qui est très important et qui nous dit que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Dieu a un plan. Et dans ce plan, il nous appelle, dans ce plan, il nous montre qu'il nous aime, et Et ceci malgré des circonstances défavorables qu'on a déjà évoquées. Et si Romains 8, 28 est vrai, alors nous devrions être capables de rendre grâce au Seigneur, de le louer en toutes circonstances et en toutes choses. Et cela n'est possible que dans la mesure, il y a quand même quelque chose que nous devons exclure. Qu'est-ce que nous devons exclure ? Alors je vous donne la réponse parce qu'elle saute peut-être pas aux yeux, elle non plus, mais ce que nous devons absolument exclure, c'est le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement, nous est-il dit ailleurs dans l'Écriture. Ce péché qui est toujours présent autour de nous. Eh bien, pour que le plan du Seigneur s'accomplisse, nous devons aspirer à ne pas pécher. Tout en sachant que nous restons pécheurs. Et ces trois bonnes attitudes, c'est-à-dire la joie, la prière et la reconnaissance, ont été appelées par l'Église ancienne déjà les ordres perpétuels pour ceux qui constituent l'Église, parce qu'ils représentent la volonté de Jésus-Christ, la volonté en Jésus-Christ pour nous. Et les paroles que vous pouvez trouver dans la Bible où il est dit « En Jésus-Christ, nous avons telle et telle chose » sont très importantes. Vous les retrouvez dans les Éphésiens et dans les Colossiens, et vous pouvez mettre dans votre moteur de recherche « En lui », et puis vous allez les trouver. Ou « En Jésus », vous allez trouver tous les avantages et toutes les offres que Jésus nous fait. Et Jésus était lui-même, sur cette terre, l'incarnation de ce qu'il prêchait, par l'enseignement et par l'exemple qu'il nous a donné. Alors, Jésus nous a révélé tout ce qui concerne la volonté de Dieu en matière de joie, en matière de prière et en matière de reconnaissance. Alors, si je nous pose comme ça la question, qu'est-ce que Jésus nous a demandé de faire ? Point d'interrogation. Que répondriez-vous ? Que répondons-nous ? Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire, Jésus ? Ah ben voilà, premier, hein, très important, aimez-vous les uns les autres. Autre chose encore ?
De rester à l'écoute.
De rester à son écoute, pour que notre communion puisse effectivement se vivre. Autre chose qu'il a dit ?
De faire sa volonté.
De faire sa volonté. Nous sommes appelés à faire sa volonté, effectivement. Ou encore, j'en ai trouvé une, c'était que votre oui soit oui et que votre non soit non. Hein? De la clarté, il faut de la clarté devant Jésus. Et nous sommes appelés à être clairs. Ou autre chose encore,
de pardonner,
hein? Comme nous pardonnons, est-il dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses. Mais pas sans suite, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Puis il nous est dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est difficile, et c'est impossible sans l'initiative de Dieu, sans sa présence en nous. C'est son Esprit qui nous permet d'avoir une telle attitude, son Esprit en nous. Et puis, il y a aussi, j'ai noté la règle d'or dans Matthieu 7, 12. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir par cœur, qu'il faudrait retenir par cœur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Et puis, au verset 19, on lit « N'éteignez pas l'esprit ». Et les quatre versets suivants semblent traiter de notre comportement en général, de notre comportement dans la vie, mais aussi de notre comportement au sein de l'Assemblée. Qu'est-ce que signifie éteindre l'esprit ? Ben, je crois que éteindre l'esprit, c'est tout ce qui a tendance à étouffer son œuvre parmi nous, et qui le limite, qui l'empêche d'agir comme il voudrait. Alors, qu'est-ce qui éteint l'esprit? Vous avez des idées sur ce qui peut éteindre l'esprit? Oui, oui, oui. Alors peut-être notre tristesse, oui. Mais aussi ne pas faire ce qu'il dit, c'est-à-dire le péché. Le péché éteint l'esprit, incontestablement. Et puis
ne pas apprendre à l'écouter.
Voilà, ne pas apprendre à l'écouter.
Mentir.
Mentir, hein, que votre oui soit oui et que votre non soit non, c'est ça que ça veut dire aussi. Soyons clairs. C'est vrai, nous ne devons pas éteindre l'esprit en conduisant l'esprit, en cherchant à conduire l'esprit, mais il faut nous laisser conduire par lui. C'est lui, effectivement, qui nous conduit.
Pas discuter avec l'ennemi.
Il ne faut pas discuter avec l'ennemi, effectivement, c'est une manière d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre qu'à Dieu qui règne en nous. Alors, ne discutons pas, ne polémiquons pas avec l'ennemi, quel qu'il soit. Les traditions aussi, peut-être, les règles, les réglementations humaines peuvent éteindre l'esprit.
L'orgueil.
Pardon ?
L'orgueil.
L'orgueil aussi. Parce que quand on est orgueilleux, c'est nous qui prenons la première place devant Dieu. Et Dieu nous laisse la place. Il n'est pas comme ça. Il ne nous oblige pas. Mais effectivement, l'orgueil peut éteindre l'esprit. Le manque d'unité entre nous est aussi une autre raison qui peut l'éteindre. Les critiques injustifiées, et peut-être même certaines critiques justifiées dans la manière dont elles sont posées. L'indifférence aussi. L'indifférence, c'est quelque chose qui éteint l'esprit. Parce que quand nous sommes indifférents, ben, ça veut dire que ça ne nous intéresse pas. Alors voilà, des choses qui peuvent éteindre l'esprit parmi d'autres. Et puis, en reliant ce verset au verset suivant, ne méprisez pas les prophéties, bien, on s'aperçoit bien que se dégage la pensée aussi que nous éteignons l'esprit lorsque nous les méprisons, les prophéties. Que signifie ici prophétiser? Ou qu'est-ce que les prophéties ici? Le premier sens de prophétiser dans le Nouveau Testament signifie dire la parole de Dieu, dire ce que Dieu a mis dans notre cœur. Les paroles inspirées des prophètes de l'Ancien Testament ont été préservées pour nous dans la Bible. Et puis dans un autre sens, ça veut dire aussi déclarer la pensée de Dieu telle qu'elle a été révélée dans la Bible. Nous sommes appelés à nous laisser instruire par les conseils, la vie de nos frères et sœurs que nous côtoyons régulièrement. Tout ça est fait pour nous, pour que nous puissions nous instruire, apprendre quelque chose d'eux. Et puis, au verset 21, il est dit, nous devons examiner ce que nous entendons et retenir ce qui est bon, ce qui est authentique, ce qui est vrai. Donc, il faut créer du discernement en nous. Négativement, on pourrait dire, ne pas gober tout ce qu'on vous dit. Comme le dit Jean aussi, l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 4 et au verset 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Méfions-nous des prophètes de mensonges. Il y en a toujours eu depuis Depuis que le monde est monde, probablement, mais en tous les cas, depuis que Jésus-Christ est venu dans ce monde, il y en a eu et il y en a encore aujourd'hui. Et nous devons nous méfier d'eux. Le critère qui nous permet d'évaluer toute prédication et tout enseignement, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'une prédication, est-ce qu'un enseignement est conforme à la parole de Dieu ? Et là où le Saint-Esprit aura la liberté de s'exprimer par l'intermédiaire des frères et des sœurs, ben, il y aura peut-être parfois des abus, parce que des fois, ce discernement est difficile. Mais quoi qu'il en soit, pour remédier aux éventuels abus que nous rencontrons, il ne faudrait pas éteindre l'esprit, c'est-à-dire l'empêcher de se manifester. Peut-être sous prétexte que, comme on ne sait pas quel esprit c'est, eh bien, on met une grande cloche sur tout ce qui s'exprime, et puis on bloque tout. Ce n'est pas la solution, parce que ça éteint l'esprit de Dieu. Et puis au verset 22, on lit « Abstenez-vous de toute forme de mal ». C'est en fait l'étape qui résume toutes les 6 étapes précédentes. Ça contient le mal, toute forme de mal commis, le mal auquel nous participons, le mal que nous cautionnons. Le mal, c'est tout ce qui est faux aux yeux de Dieu. Alors, ayons comme objectif d'éloigner le mal de nos actions, de nos pensées et de notre cœur, parce que c'est toujours dans notre cœur que le mal commence à s'exprimer, que le mal est conçu. Alors, je vous rappelle ces sept comportements qui doivent motiver notre sagesse chrétienne. Premièrement, la joie égale aussi la disposition à la louange, réalisant que toutes les manières d'agir de Dieu sont fantastiques, sont merveilleuses. Deuxièmement, la disposition à la prière. La prière ne devrait jamais être ressentie comme malvenue ou comme inconvenante ou comme dérangeante pour nous. Et puis troisièmement, la disposition à la reconnaissance, même quand les circonstances sont déplaisantes pour nous. Et puis quatrièmement, la disposition à la spiritualité. L'esprit devrait avoir toute la liberté en nous et par nous. Et puis cinquièmement, la disposition à apprendre, à nous laisser enseigner par n'importe quel moyen que le Seigneur choisira pour que nous puissions, sixièmement, discerner, c'est-à-dire reconnaître. Et puis finalement, nous fier à la parole de Dieu en discernant. Et finalement, la disposition qui est une disposition à la sanctification, c'est-à-dire au fait de rester saint. Nous sommes saints, pas des petits saints, mais des saints de Dieu. Nous sommes déclarés justes et saints par ce que Dieu a fait pour nous. Alors, soyons disposés à ce que si le mal entre dans nos pensées, nous puissions l'éviter à tout prix. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de manifester une telle attitude toujours mieux et d'une manière qui est toujours plus consacrée au Seigneur. Amen.